Chapitre 6. Monsieur Peters rapporte comme quoi il a cru saisir une trace et comment il l'a perdue. Une semaine après l'assemblée des Cherokees, Richard Marwood reçut sa mère dans une petite maison garnie qu'il avait louée dans Spring Garden. Mistress Marwood, possédant toute la fortune de son frère assassiné, était une femme très riche. Elle avait dépensé fort peu de choses de ses considérables revenus pendant les 8 années de l'emprisonnement de son fils, encouragée qu'elle était par les insinuations mystérieuses et les promesses vagues de M. Peters qui lui faisaient espérer la délivrance de son cher et unique enfant. L'heure était arrivée, elle le tenait de nouveau libre dans ses bras. « Non, mère, non, dit-il, je ne suis pas libre. Je suis libéré des murs de la prison, mais non libéré de la tâche d'une fausse accusation. Jusqu'à l'heure où toute l'Angleterre me déclarera innocent, je ne serai pas en vérité un homme libre. Car, voyez-vous, mère, je ne puis sortir de cette chambre pour aller dans la rue là-bas sans un déguisement semblable à celui que pourrait porter un meurtrier lui-même, crainte que quelque agent de Sloperton ne puisse reconnaître le fou criminel et ne me renvoie à ma cellule de l'asile. Mon enfant bien-aimé !» Elle pose ses mains sur ses épaules et contemple d'un air plein d'orgueil son beau visage. « Mon enfant bien-aimé, ces gens de Sloperton te croient mort. Vois !» Elle touche en parlant sa robe noire. « C'est pour toi que je la porte !» Une supercherie bien pénible, Richard, même pour un but comme celui-ci. Je ne puis penser à cette rivière et à ce qui aurait pu arriver. Chère mère, j'ai été sauvée, peut-être afin de pouvoir réparer cette vie coupable et débauchée du passé. Seulement débauchée, Richard, jamais coupable. Toujours le même noble esprit, toujours le même cœur généreux, toujours mon chéri et unique enfant. Vous vous souvenez de ce que dit le jeune homme dans la comédie, mère, quand il s'est mis dans une mauvaise affaire en négligeant son jardin et en faisant la cour à la fille de son maître? Vous serez encore fière de votre fils. Je serai fière de toi, Richard, mais j'en suis fière. Nous sommes riches et la fortune est une puissance. Justice te sera faite, mon cher enfant. Tu as des amis. Oui, mère, de véritables et dignes amis. Peters, l'avez-vous amené avec vous? Oui, je lui ai persuadé d'abandonner sa place. Je lui ai constitué une rente viagère de 100 livres, mince récompense pour ce qu'il a fait, Richard. Mais c'est tout ce que j'ai pu lui faire accepter, et encore n'a-t-il voulu y consentir qu'à la condition que chaque moment de sa vie serait consacré à ton service. « Est-il à la maison maintenant, mère ?»« Oui, il est au-dessous. Je vais sonner pour le demander. »« Volontiers, mère. Je dois aller rejoindre Darley et je l'emmènerai avec moi. Vous allez me prendre pour un fils plein d'inattention et de négligence, mais souvenez-vous que ma vie n'a qu'un seul objet, celui de trouver cet homme. » Il lui pressa la main et la laissa derrière la croisée, occupé à regarder son ombre s'éloigner dans la rue calme et sombre. Sa reconnaissance envers le ciel pour avoir retrouvé son fils est profonde et vivement sentie. Mais il y a une ombre de tristesse sur son visage, tandis qu'elle le suit des yeux dans la demi-obscurité. Elle pense aux 8 années perdues de sa jeunesse et de sa brillante virilité, dont il va dépenser maintenant le reste à poursuivre une chimère, car elle est persuadée qu'il ne découvrira jamais le meurtrier de son oncle. Comment, après 8 ans, sans le moindre indice pour suivre sa piste, comment espérer saisir le véritable criminel? Mais la Providence est au-dessus de nous, Agnès Marwood, et dans le sentier obscur et tortueux de la vie, la lumière, quelquefois, arrive à l'improviste, au moment où on s'y attend le moins. Si vous traversez directement Blackfriars Bridge, sans vous laisser distraire au-delà du pont, par les enchantements de ce lieu de flânerie à la mode, le New Cult, ou par l'éloquence de la dernière célébrité de cette chapelle circulaire consacrée autrefois à Rowland Hill, si vous n'êtes pas homme à vous laisser attirer par les asticots et autres appâts de pêche, les articles de bric-à-brac, les oiseaux et les cages d'oiseaux, ou par un barbier en plein vent, Vous pourrez atteindre définitivement, à l'extrémité de la route, une localité connue des habitants du district sous le nom de Friar Street. Quant à dire si jamais, à quelque époque ténébreuse de notre histoire ecclésiastique, les membres de l'Église mère furent réduits à la nécessité de vivre dans ce quartier, je ne pourrais le faire. Mais si jamais quelqu'un des princes de la foi catholique avait établi leur demeure dans ce voisinage, il faut croire que les odeurs des chaudières de savon à l'angle de la rue, les fortes émanations des fabriques de chandelles de l'autre côté, et dans le milieu les parfums variés des divers établissements de manufacturiers qui gagnent des milliers de livres par semaine, sans compter les partielles effluves domestiques représentées par un amalgame d'odeurs de hareng sort, de chiffon moisi, de vieilles bottes, d'oignons, de lessive, de cheminées fumeuses, de chats morts, de pourris et de deux ou trois égouts à ciel ouvert. Il faut croire, dis-je, que toutes ces senteurs luttant ensemble n'envahissaient pas l'atmosphère de Friar Street avec une intensité aussi considérable dans le bon vieux temps qu'elle l'infecte de nos jours à cette époque de luxe et de raffinement. L'établissement de M. Darley, réputé chirurgie et pharmacie par excellence, était peut-être un des lieux les plus prétentieux de la rue. Il s'annonçait, en effet, avec une telle redondance de lettres dorées et de becs de gaz qu'il semblait dire « En vérité, maintenant, vous pouvez être malade, ou si vous ne l'êtes pas, vous devez l'être. » Ce n'était pas une très vaste maison, cet établissement de M. Darley, mais il y avait au moins une demi-douzaine de poignées de sonnettes à la porte d'entrée. Là était inscrit « Cabinet de chirurgie », ici « Sonnette de jour », là « Sonnette de nuit ». Gus voulait en avoir pour le matin et l'après-midi, mais on lui dit que ce n'était pas dans le caractère de la profession. Puis, outre ces sonnettes pour le cabinet de chirurgie, pour le jour et pour la nuit, il y avait une autre plaque brillante de cuivre avec l'inscription « Visiteur » et une semblable sur laquelle était gravé le mot « Officine ». Quoiqu'il n'y eût qu'un petit parloir sur le derrière au-delà de l'officine, dans laquelle les visiteurs pénétraient toujours, et qu'il était d'usage pour tous les susdits visiteurs de traverser directement la susdite pharmacie pour entrer dans le susdit parloir, sans s'inquiéter d'une sonnette quelconque, la plaque de cuivre était considérée plutôt comme un objet de convention que de nécessité. Mais Gus disait qu'elle faisait bien, surtout quand elles étaient bien nettoyées, ce qui n'arrivait pas toujours. Deux gentlemen américains, amis de Darley, ayant l'habitude de les asperger de jus de tabac dans l'obscurité de la nuit. En agitant la sonnette, on réussissait le plus souvent à entrer après 6 heures, mais dans le cas contraire, on pouvait rester devant la porte toute la soirée, c'est-à-dire un temps indéfini jusque dans la matinée du jour suivant, car la société de Darley se dispersait rarement de très bonne heure et laissait ses visiteurs dehors, et prendre le thé au lait dans l'intérieur était fréquemment une façon simultanée de se conduire dans la maison de notre jeune chirurgien. S'il eût été seulement un chirurgien, il eût été un Benjamin Brodie. Car lorsqu'on fait entrer en ligne de compte qu'il peut toucher du piano et de l'orgue, jouer de la guitare et du violoncelle sans avoir appris aucun de ses instruments, qu'il peut composer une chanson et la mettre en musique, qu'il peut dessiner des chevaux et des chiens d'après Hering et Landseer, faire plus de calembours dans une phrase que n'importe quel écrivain burlesque existant, faire la cour à une demi-douzaine de femmes à la fois et être cru de toutes sans se soucier plus d'aucune que d'un demi-penny, chanter une chanson comique ou raconter une histoire drôlatique, nommer le vainqueur du derby d'avance plus sûrement qu'aucun prophète de ce côté de l'eau, faire son livre de compte d'une main tandis qu'il écrit une ordonnance de l'autre, le lecteur judicieux avouera qu'il y avait une grande quantité de talents de toutes sortes dans la nature de M. Auguste Darley. À la brune de cette soirée d'automne particulière, il est fortement occupé à ranger un tas de petits paquets étiquetés, sel supérieur d'Epsom, tandis que son aide, un très frêle jeune homme, en apparence beaucoup moins âgé que son maître, allume le gaz. La porte à moitié vitrée, qui communique avec le petit parloir de derrière, est entrebâillée et Gus est en train de causer avec quelqu'un dans l'intérieur. « Si, je passe l'eau ce soir, belle, » dit-il. Une voix féminine partant de l'intérieur l'interrompt. « Mais vous ne devez pas sortir ce soir, Gus. la dernière fois que vous êtes allé chez cet horrible boxeur, le petit garçon de Mrs. Tompkins a été malade et on a envoyé chercher M. Parker dans London Road. Et vous êtes si aimé de tout le monde, chérie, que l'on dit que si vous restiez toujours chez vous, vous auriez la meilleure clientèle du quartier. » Mais, Belle, comment un individu pourrait-il se condamner à rester au logis tous les soirs pour vendre, la moitié du temps, deux sous de sel ou un emplâtre à un pauvre diable ? S'il voulait être malade, ajouta-t-il presque sauvagement, je ne m'ennuierais pas en ne bougeant pas, il y aurait quelque intérêt à rester s'il venait seulement pour se faire arracher les dents. Mais ils ne veulent pas, et je suis sûr que si je leur vendais notre infaillible teinture contre le mal de dents, et que si elle ne les en débarrassait pas, c'est que rien n'y ferait. Venez prendre votre thé, Gus, et dites à Nix d'apporter sa tasse. Nix était l'élève qui, sur le champ, retira d'une étagère sous le comptoir la tasse dans laquelle buvait un homme pris de boisson lorsqu'il était conduit dans la pharmacie. Gus avait coutume de le saigner dans le double but de s'exercer dans son art et de calmer le patient. La personne du sexe féminin qui occupait le parloir était une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux bleus, âgée d'un peu moins de 20 ans. C'était la sœur unique d'Auguste Darley. Elle tenait sa maison et, dans un cas pressé, pouvait faire une prescription. Bien plus, elle était connue pour savoir arracher les dents de lait d'un jeune patient et pour lui rendre son argent après l'opération, afin qu'il pût se consoler par l'achat de quelques friandises. Isabelle Darley est peut-être à juste raison ce que les précieuses jeunes filles qui n'ont jamais dépassé les limites de la pension ou d'un salon pourraient appeler un peu osées. Mais quand on prend en considération qu'elle est restée orpheline en bas âge, qu'elle n'est jamais allée à l'école de sa vie et qu'elle a été habituée, pendant un temps très considérable, à la société des amis de son frère, principalement des membres du club Cherokee, il ne paraîtra pas étonnant qu'elle ait quelque chose d'un peu plus masculin dans ses manières et de plus avancé dans ses opinions que les autres personnes de son sexe. Le parloir est petit, comme on l'a déjà dit. L'un des Cherokees avait suggéré l'idée, lorsque plusieurs visiteurs étaient présents et que le moment du départ était venu, de les extraire séparément de l'intérieur avec un tire-bouchon. D'autres Cherokees étant arrivés quand la pièce était au comble de visiteurs, avaient donné l'avis que quelqu'un entrât d'abord avec une chandelle allumée pour s'assurer si l'atmosphère était propre à la respiration. Le logement, peut-être, n'était pas agrandi par le caractère de l'ameublement, qui consistait en un piano qui servait heureusement de buffet, d'une chaise destinée aux opérations de chirurgie dentale, d'une petite colonne de style corinthien sur laquelle était accrochée par une chaîne attachée à une cheville en fer, une cuvette servant aux mêmes usages. Les Cherokees préparaient du punch dans ce vase et un joyeux d'humeur badine était tombé dans le ravissement en détachant de la cheville la cuvette toute remplie par manière d'agréable divertissement. Il y avait un violoncelle dans un coin et une étagère pour les livres, meuble qui était un tourment pour le dos des Cherokees, car le contact d'une tête d'homme suffisait pour en jeter bas les tablettes et pour faire tomber le contenu de la bibliothèque de M. Darley sur la tête en question en forme de pluie littéraire, un sofa d'une bonne largeur avec cette élasticité ordinaire, ses bras et ce dossier dur qui distinguent le genre lit-canapé. Il va sans dire que table, chaise, objet de Chine, ça et là un buste en plâtre de la fabrique de Paris, caricature sur les murs, lampe qui ne pouvait brûler, et tout un attirail pour la confection des rôtis au fromage, étaient bagatelles qui ornaient l'appartement et dont la nomenclature ne vaut pas la peine d'être faite. Les oiseaux de Miss Darley, en outre, quoique faisant rejaillir graines et eau dans les yeux des inoffensifs visiteurs, quoique laissant tomber sur leur nez des morceaux souillés de sucre, ne pouvait naturellement être considéré comme un désagrément, mais positivement la pharmacie et le parloir, qui étaient derrière, étaient, pour en finir, un peu trop encombrés de meubles. Tandis qu'Isabelle est occupée à verser le thé, deux gentlemen ouvrent la porte de la pharmacie et la sonnette qui devrait sonner et qui ne le fait pas, en dégringolant au pied du premier visiteur, manque de le faire choir tout de son long dans l'officine du disciple d'Esculape. Ce premier visiteur n'est autre que M. Peters, et le personnage de haute taille qui est derrière lui, enveloppé dans un manteau, est Dick le diable. « Me voici » cria-t-il de sa voix sonore et franche. « Me voici, nous avons trouvé enfin votre demeure, malgré les fascinations de toutes les vieilleries en coquillages du Royaume-Uni. Me voici, et avec moi, le meilleur ami que j'ai dans le monde, sans même vous accepter, mon vieux camarade. » Gus présenta Richard à sa sœur Isabelle, qui, depuis son enfance, avait entendu parler du jeune homme, enfermé dans un asile de fous à Sloperton, comme du plus grand héros, après Napoléon Bonaparte, que le monde eût jamais glorifié. Elle était petite fille de 11 ans à l'époque du procès de Dick et n'avait jamais vu les cervelés camarades de son plus écervelé frère. Elle considère maintenant le beau visage au teint brun, ayant un regard presque respectueux dans ses yeux bleus et profonds. Mais Belle n'est en aucune façon une héroïne, et elle a une douzaine d'occupations qui ressemblent fort peu à celles d'une héroïne. Elle a le thé à verser et elle échaude les doigts de Richard dans son agitation nerveuse. Elle jette le sucre dans sa théière et verse tout le lait dans une tasse à thé. Il est impossible de dire ce qu'elle eût fait sans l'assistance de M. Peters, mais ce gentleman se montra le véritable génie de l'ordre. Il prépara de minces tartines de beurre pour une demi-douzaine de personnes et personne de la société n'y toucha, remplit de nouveau la théière avant qu'elle fût vide, alluma la lampe à gaz qui était suspendue au plafond, ferma la porte qui communiquait avec la pharmacie et l'autre porte qui conduisait à l'escalier et fit tout cela si tranquillement que personne ne s'aperçut après tout qu'il eût fait quelque chose. Pauvre Richard, malgré la reconnaissance et le bonheur qu'il éprouve pour sa délivrance, il y a de la tristesse dans son regard et un embarras dans ses manières qu'il s'efforce en vain de surmonter. Une petite créature, ronde, joufflue, qui pouvait être âgée de 12 à 20 ans, en se rapportant aux lumières des personnes expertes à évaluer l'âge, enlève le service à thé et casse une soucoupe. Gus lève la tête. « C'est toujours ainsi qu'elle fait, » dit-il sans se fâcher. « Nous sommes tout à fait habitués à ce bruit. Elle réduit à rien notre assortiment de Chine et nous sommes quelquefois obligés d'envoyer acheter des objets pour le thé avant de pouvoir déjeuner. Mais c'est une bonne fille et elle ne met pas au pillage le miel ou les jujubes, l'acide tartrique et les poudres de Sedlitz comme faisait l'autre. » « Ce n'est pas que je m'en souciasse beaucoup, » continua-t-il, « mais elle remplissait les sacs d'arsenic, crainte d'être découverte, et cela aurait pu avoir des inconvénients si par hasard nous les avions vendus. » « Maintenant, Gus, » dit Richard, en rapprochant sa chaise du feu et allumant sa pipe, après en avoir préalablement obtenu la permission de Belle, qui vivait dans une continuelle atmosphère de fumée de tabac, « Maintenant, Gus, je désire que Peters vous raconte tous les détails de l'affaire, comment il a pensé que j'étais innocent, comment il a trouvé le plan qu'il forma pour sauver ma tête, comment il a essayé de chercher et de découvrir une trace du meurtrier véritable, comment il a cru l'avoir découverte et comment il a perdu. » « Ma sœur peut-elle rester pendant qu'il fera son récit ?» demanda Gus. « C'est votre sœur, Gus. Elle ne saurait différer tellement de vous qu'elle ne soit pour moi une amie sincère et compatissante. » « Miss Darley, » continua-t-il en se tournant de son côté pendant qu'il parle, « vous ne me croyez pas aussi mauvais que le monde m'a jugé. Vous voudriez me voir réhabilité et voir mon nom lavé de la tache d'un crime odieux. » « Monsieur Marwood, j'ai entendu le récit de votre malheureuse histoire bien des fois de la bouche de mon frère. » Eussiez-vous été mon propre frère, je n'aurais pas ressenti, croyez-moi, un plus profond intérêt pour votre sort ou un chagrin plus véritable pour votre infortune. Il n'est besoin que de regarder votre figure ou d'entendre votre voix pour connaître quel bon et honnête jeune homme vous êtes et combien peu vous méritez l'accusation qui a été portée contre vous. » Il se lève et lui donne la main. Ce n'est pas la faible pression d'une main de femme qui enlèverait à peine le duvet d'une aile de papillon, mais une bonne et cordiale poignée de main qui vient directement du cœur. « Et maintenant, au récit de M. Peters, » dit Gus, « pendant que je vais confectionner un vaste bol de punch au whisky. » « Pouvez-vous suivre ses mains, » Gus, demanda Richard. Je puis en suivre la moindre contorsion et le moindre mouvement. Lui et moi avons parlé bien souvent de vous avant d'aller à la pêche, » dit Gus, levant la tête et abandonnant un instant son agréable occupation de peler un citron. « Maintenant, donc, au récit, » dit Richard. Et en conséquence, M. Peters commença. Peut-être que, considérant l'abandon de sa place dans la police de Soperton comme un grand événement, pour ne pas dire comme une crise dans sa vie, M. Peters l'avait célébré par un autre événement, et, laissant aller ses affaires au courant, il avait profité de cette circonstance pour se laver les mains. Sans comparaison, l'alphabet digital était considérablement plus propre que lorsqu'il y a 8 ans, il avait mimé les deux mots « non coupable » dans le wagon du chemin de fer. C'était une chose vraiment curieuse à voir que cette petite réunion composée de Gus, de Richard et de Belle, tous attentifs et les yeux fixés sur les doigts en mouvement de l'agent. Le silence était rompu seulement par intervalle par un des trois personnages. « Quand je vis d'abord ce jeune gentleman, » disent les doigts, M. Peters désignant Richard d'un coup de coude. « Je me tenais de l'autre côté de la voie, attendant que mon supérieur Jinx, qui était autant à son affaire qu'une chatte faisant ses petits. » M. Peters avait tout à fait ce que nous pourrions appeler une méthode fantaisiste d'orthographier, retranchant la lettre finale de certains mots pour l'accoler à d'autres, suivant l'inspiration de son goût. Attendant, dis-je, que James réclama mon assistance. Voilà donc, monsieur, en demandant pardon à madame, car elle veille si bien comme un homme, sans se laisser aller aux défaillances et aux accès nerveux communs à son sexe, que j'oubliais complètement qu'elle fût une femme. Voilà donc que je n'eus pas plutôt jeté les yeux sur M. Marwood, qui était là à fumer sa pipe au nez de Jinx, lui répondant vivement et ayant une allure que nous pourrions comparer à celle d'un coq, que je me dis « on a arrêté un innocent ». Mes premières paroles et mes dernières sur le compte de ce gentleman ici présent furent « on a arrêté un innocent ». M. Peters promena un regard de triomphe sur ses auditeurs attentifs, se frotta les mains en manière de ponctuer son récit et continua sa narration manuelle. « Pourquoi ?» dirent les doigts interrogativement. « Pourquoi avais-je la conviction que ce gentleman n'était pas coupable de ce meurtre ? Pourquoi pensais-je que les camarades de Soperton avaient suivi une mauvaise piste ? Parce qu'ils tenaient tête ? Dieu bénisse vos beaux yeux, miss !» Par galanterie, il s'adresse ici à Isabelle, non pas le moins du monde pour ça. Quand un gaillard est capable de couper la gorge à un autre sans hésiter, il n'est pas vraisemblable qu'il ne soit pas préparé à tenir tête à un agent de police. Mais quand j'examinais la figure de ce jeune gentleman, que remarquais-je en elle ? Eh bien, aussi facilement que j'aperçus son nez et ses moustaches, qui ne sont vraiment pas mal, dirent les doigts entre parenthèses. Je vis qu'il n'avait pas commis le crime. Maintenant, un drôle qui a été conduit à paraître devant un juge et un jury, et peut-être capable de les affronter et de ne pas changer une ligne de son pot à bière, mais il n'y en a pas un qui puisse soutenir cette première tape sur l'épaule de la main d'un agent qui lui dit en propre terme « la partie est finie ». Le plus effronté et le plus intrépide d'entre eux faiblit à cet attouchement. S'ils conservent la couleur de leur visage, ce que quelques-uns ont le pouvoir de faire, et malgré cela nul n'a échappé au châtiment, s'ils peuvent donc conserver la couleur de leur visage, la sueur perce, froide et humide, sur leur front et leurs habits. Mais ce jeune gentleman était pris par derrière, il était étonné et il était ferme, et il usait de mauvaises paroles, mais sa couleur n'avait pas changé et il n'avait pas été un instant bouleversé jusqu'au moment où Jinx, comme un maladroit, lui parla de l'assassinat de son oncle, ce qui le fit devenir aussi blanc que ce plâtre de Bonaparte. M. Peters, à défaut d'une meilleure comparaison, tourne les yeux dans la direction d'un buste du vainqueur de Marengo, qui, en fumée de tabac et orné d'une paire de moustaches faites avec un bouchon brûlé, n'était en aucune façon l'objet le plus blanc des choses créées. Voici maintenant à quoi sert un agent s'il est digne de manger le pain qu'il gagne. Quand il voit 2 indices d'un côté et 2 de l'autre, il peut les réunir. Quoi qu'ils puissent paraître éloignés d'un mille les uns des autres à tout individu non initié au métier et en faire une somme de 4. Ainsi, pensais-je, le gentleman n'a pas été déconcerté quand on l'a arrêté, mais il a été bouleversé quand il a appris que son oncle avait été assassiné. À présent, s'il a commis cet assassinat, il en a connaissance et il peut jouer la surprise, mais je ne serais pas surpris que ce gentleman fût surpris d'une stupeur aussi réelle que... L'imagination de M. Peters eut de nouveau recours au buste de Napoléon, que celle qu'éprouva ce personnage étranger quand il vit sa vieille garde décimée à la bataille de Waterloo.